2016, application au fait de la théorie, ci-dessus développée. Chapitre 16, 2. Et c'est sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand, par Henri Chrétien, en 1867. Tout développement de vérité ayant trait à l'homme, et spécialement à l'homme agissant, conduit au désir de voir appliquer ce que la théorie démontre comme vrai. Ce désir est en harmonie avec la nature de l'homme, qui ne se contente si rarement du charme bienfaisant et calme de l'idée pure. Il devient plus vif lorsque notre cœur s'intéresse au bonheur de la société. Mais, si naturel que soit par lui-même ce désir, si noble que soit la source d'où il découle, il lui est pourtant arrivé souvent de produire des conséquences fâcheuses, plus fâcheuses même que la froide indifférence, ou bien, car le même effet peut sortir de deux causes contraires que cette ardeur de l'âme, qui s'intéresse moins à la réalité, et ne se délecte que de la beauté de l'idée pure. En effet, la vérité, quand elle enfonce profondément ses racines, fût-ce dans un seul homme, étant toujours à la vie réelle, ses conséquences salutaires. Seulement cette action s'accomplit avec plus de lenteur et moins de bruit. Au contraire, ce que l'on transporte brusquement dans le domaine de la réalité, perd souvent sa forme primitive dans la translation même, et ne réagit même pas sur les idées. Ainsi, il existe des idées que le sage n'essayerait jamais de réaliser. Dans aucun temps, la réalité n'est prête à accueillir les créations de l'esprit, même les plus belles et les mieux réfléchies. L'idéal est fatalement destiné à flotter toujours comme un modèle inaccessible dans l'âme de l'artiste. Il suit de là qu'une prudence plus qu'ordinaire est indispensable même, dans l'application de la théorie la plus sûre et la plus logique. Je veux donc, avant de terminer ce travail, rechercher aussi complètement et en même temps aussi brièvement que mes forces me le permettront, dans quelle mesure les principes développés précédemment peuvent être transportés dans le domaine de la réalité. Cette recherche pourra me garder contre le reproche d'avoir, par ce qui précède, voulu régenter directement les faits, ou désapprouver ce qui dans la réalité peut être en désaccord avec ce que j'ai dit. C'est là une présomption dont je serais encore fort éloigné, même si je considérais tout ce que j'ai dit comme entièrement exact et tout à fait hors de doute. Dans toute transformation du présent, une situation nouvelle doit naître et succéder à la précédente. Mais chaque situation dans laquelle se trouvent les hommes, chaque objet qui les entoure produit dans leur être intérieur une certaine forme déterminée et arrêtée. Cette forme ne peut pas changer selon une conception arbitraire, choisie d'avance par l'esprit. On manque le but qu'on se propose, en même temps que l'on détruit la force, si l'on impose à l'homme une forme non convenable. Si l'on jette un coup d'œil sur les plus importantes révolutions de l'histoire, on découvrira sans peine que la plupart d'entre elles sont nées des révolutions périodiques de l'esprit humain. On est confirmé davantage encore dans cette idée si l'on étudie les forces qui, en réalité, causent tous les changements qui arrivent sur notre globe, et si l'on se rend compte que parmi elles, ce sont les forces humaines qui jouent le rôle principal. Car les forces de la nature physique, à cause de leur marche régulière et de leur retour éternellement uniforme, sont moins importantes à cet égard, et celles des êtres sans raison sont insignifiantes en soi. La force humaine, dans une période donnée, ne peut se manifester que d'une seule manière, mais ce mode de manifestation peut se diversifier à l'infini. Considérée dans chaque moment séparé, elle présente donc un aspect exclusif. Considérée dans une série de périodes, elle offre l'image d'une admirable variété. Tout état antérieur, ou bien produit tout seul l'état qui lui succède, ou du moins empêche que des circonstances extérieures ne puissent produire autre chose. Cet état antérieur est là. Modification qu'il reçoit détermine aussi, par suite, le mode même suivant lequel la nouvelle situation doit agir sur les hommes. Et la puissance de cette détermination est si grande, que même ces circonstances en reçoivent souvent par là même une forme entièrement nouvelle. Il suit de là que tout ce qui arrive sur la terre peut être appelé bon et salutaire, parce que c'est la force intérieure de l'homme qui s'empare de toute chose, de quelque nature qu'elle soit, et parce que cette force intérieure ne peut agir que favorablement, quoique à des degrés divers, dans toutes ses manifestations, puisque chacune d'elles, en effet, lui donne plus d'énergie ou de finesse. De là résulte encore que l'on pourrait peut-être présenter l'histoire universelle du genre humain uniquement comme la série logique et naturelle des révolutions de la force humaine. Ce serait là peut-être non seulement la manière d'étudier l'histoire la plus féconde en enseignement, mais encore tout ce qui s'efforce d'agir sur les hommes apprendrait ainsi dans quelle voie de progrès ils doivent essayer de mettre et de diriger la force humaine, et dans lesquels ils ne devraient jamais vouloir la placer. Ainsi, de même que la force intérieure de l'homme, par sa dignité, mérite qu'on la respecte grandement, de même, elle impose le respect par la vigueur avec laquelle elle se soumet toutes les autres choses. Donc, qui voudra entreprendre le difficile travail d'entrelacer savamment un nouvel état de choses dans un autre qui le précédait, devra ne jamais perdre de vue cette force. Il devra tout d'abord attendre la pleine action du présent sur les esprits. S'il voulait trancher dans le vif, peut-être pourrait-il changer la forme extérieure des choses, mais non pas la disposition intérieure de l'homme, et celle-ci s'infiltrerait toujours dans toutes les nouveautés qu'on lui aurait imposées de force. Et qu'on ne croit pas que plus on laissera de plénitude à l'action du présent, plus l'homme aura de répugnance pour un état de choses nouveau. Précisément, dans l'histoire de l'homme, les extrêmes se relient le plus fortement les uns aux autres, et tout état extérieur, quand on le laisse agir sans entrave, travaille à sa propre ruine au lieu de travailler à son affermissement. Ceci nous est démontré non seulement par l'expérience de tous les temps, mais cela est encore conforme à la nature de l'homme, aussi bien de l'homme actif que de l'homme passif. De l'homme actif, qui ne s'arrête jamais à un objet plus longtemps que son énergie n'y trouve de matière, et qui passe d'autant plus aisément à autre chose qu'il s'est livré en toute liberté au travail qu'il va quitter. De l'homme passif, en qui à la vérité la durée de l'oppression émousse la force. Mais, en même temps, cette durée de l'oppression fait qu'on la ressent plus vivement. Même sans porter une atteinte directe à la forme présente des choses, il est possible d'agir sur l'esprit et sur le caractère des hommes et de leur donner une disposition qui cesse d'être en harmonie avec la situation actuelle. C'est ceci que le sage tentera de faire. C'est là la seule voie de réaliser le plan de réforme, exactement tel que la pensée l'a conçu. Par toute autre voie, ce plan sera modifié, changé, dénaturé, au travers des éléments de l'état précédent qui restent dans les faits et dans l'esprit des hommes. Sans compter le mal que l'on cause toujours quand on trouble la marche naturelle du développement humain. Une fois cet obstacle écarté, la situation qu'on a décidé d'établir pourra exercer son action entière, en dépit de l'état antérieur et de la situation présente qui l'a produite. Alors, rien ne devra plus s'opposer à l'exécution de la réforme. Les règles générales de la théorie de toute réforme devraient donc peut-être présenter comme suit. Un degré transporté dans la réalité, les règles de la théorie pure, alors, mais jamais avant, que les faits ne les empêchent plus de produire dans toute leur étendue les effets qu'elles produiraient toujours, si aucun élément étranger ne venait s'y mêler. 2 degrés. Pour accomplir le passage de la situation présente à l'état nouveau que l'on projette, faire autant que possible que toute réforme découle des idées et de l'esprit des hommes. Dans l'exposition des principes purement théoriques que j'ai présentés, mon point de départ, il est vrai, a toujours été la nature de l'homme, et j'ai toujours supposé une mesure commune, non une mesure extraordinaire de force. Mais je me suis toujours représenté l'homme avec la forme qui lui est nécessairement propre, avant qu'il ne soit modifié par aucune situation spéciale. Or, Nulle part, un tel homme ne se rencontre. Partout le milieu dans lequel il vit, lui a déjà donné une forme positive, plus ou moins détournée. Ainsi, quand un état s'est efforcé d'étendre ou de restreindre les limites de son action, suivant les principes d'une théorie vraie, il doit tenir très grand compte de cette forme. Le manque d'harmonie entre la théorie et la réalité, en ce qui concerne ce côté de l'administration de l'État, se résoudra toujours, à la vérité, comme il est facile de l'apercevoir, en un manque de liberté, et ainsi, l'on peut croire que le relâchement des liens est toujours possible, et toujours salutaire. Mais, si vrai que soit en elle-même cette proposition, il ne faut pas oublier que ce qui, d'un côté, et en tant que lien, enchaînera la force, d'un autre côté sera pour l'homme une occasion d'exercer son activité. Au commencement de ce travail déjà, j'ai fait observer que l'homme a plus de penchant pour la domination que pour la liberté. L'édifice du pouvoir ne contente pas seulement le souverain qui l'élève et le maintient. Les sujets aussi sont satisfaits par la pensée qu'ils sont les parties d'un tout qui s'élève au-dessus des forces et s'étend au-delà de la durée d'une génération. Par conséquent, là où cette opinion est encore dominante, l'énergie doit nécessairement s'évanouir et la somnolence et l'apathie doivent apparaître lorsque l'on veut forcer l'homme à agir seulement en soi et pour soi, seulement dans le cercle qu'embrassent ses forces individuelles, seulement pour le temps qu'il a à vivre. À la vérité, ce n'est que de cette manière qu'il agit sur le cercle le plus illimité, pour la durée la plus impérissable. Mais aussi son action n'est pas immédiate. Il répand une semence qui germe d'elle-même plutôt qu'il n'élève des édifices qui montrent directement les traces de sa main. Il faut nécessairement un plus haut degré de culture pour préférer l'activité qui ne fait que donner des forces et qui confie à ces dernières la production des résultats, à cette autre activité qui crée directement par elle-même les résultats. Ce degré de culture est la vraie maturité de la liberté. Toutefois, cette maturité ne se trouve nulle part dans sa perfection, et, suivant ma conviction, une telle perfection restera par ailleurs toujours étrangère à l'homme sensuel, et si volontiers extraverti. Qu'aurait donc à faire l'homme d'État qui voudrait entreprendre un pareil changement? D'abord, à chaque pas nouveau qu'il ferait en dehors de la voie tracée par la situation actuelle des choses, suivre strictement la théorie pure, à moins qu'il n'existe dans le présent une circonstance qui, si l'on voulait se fonder uniquement sur la théorie, changerait, ou anéantirait tout, ou partie de ses conséquences. En second lieu, il devrait laisser subsister, sans y toucher toutes les restrictions à la liberté, fondées sur l'état présent des choses, jusqu'à ce que les hommes feraient comprendre par des signes infaillibles qu'ils les considèrent comme des liens oppressifs, qu'ils en ressentent le poids, et qu'en ce point, ils sont mûrs pour la liberté. Mais alors, il faudrait faire disparaître ces restrictions à la liberté sans tarder. Enfin, cet homme d'État devrait employer tous les moyens de promouvoir la maturité du peuple pour la liberté. C'est là incontestablement la chose la plus importante et la plus simple dans ce système. Car rien ne nous apprend aussi bien à être digne de la liberté que la liberté elle-même. Cette proposition ne sera pas admise, il est vrai, par ceux qui se sont si souvent servis de ce prétendu manque de maturité comme d'un prétexte pour faire durer l'oppression. Pourtant, elle s'ensuit, je crois, incontestablement de la nature même de l'homme. Le manque de maturité pour la liberté ne peut venir que du manque de forces intellectuelles et morales. On ne combattra cette insuffisance qu'en augmentant ses forces. Pour les augmenter, il faut qu'elles s'exercent. Pour qu'elle s'exerce, il faut la liberté qui fait naître l'esprit d'initiative. Seulement, ce n'est pas, à proprement parler, donner la liberté que d'écarter des liens quand celui qui les porte n'en souffre pas. Mais il n'existe aucun homme au monde, si abandonné qu'il soit de la nature, si abaissé qu'il soit par sa condition, chez qui cela est vrai pour tous. Les liens qui le tiennent. Ainsi donc, qu'on les écarte peu à peu, et successivement, à mesure que s'éveille le sentiment de la liberté, et à chaque nouveau pas, on accélérera le progrès. De grandes difficultés peuvent encore résider dans la reconnaissance des indices caractéristiques de ce réveil. Mais ces difficultés ne sont pas, tant dans la théorie que dans l'application, qui, sans doute, ne permet jamais de règles spéciales, mais qui, ici, comme partout, ne peut être que l'œuvre du génie. En théorie, j'essayerai de m'expliquer ce point d'ailleurs fort compliqué de la manière suivante. Le législateur devrait inéluctablement avoir deux choses devant les yeux. Un degré, la théorie pure développée jusque dans le détail le plus exact. Deux degrés, l'état des faits particuliers qu'il aurait décidé de changer. Il devrait non seulement maîtriser la théorie, dans toutes ses parties de la manière la plus exacte et la plus complète. Mais il devrait encore avoir présentes à l'esprit les conséquences nécessaires de chacun des principes dans toute leur étendue, dans leurs divers entrecroisements, et dans leurs dépendances mutuelles les unes des autres, si ces principes ne pouvaient pas tous être réalisés à la fois. Il devrait encore, et ce point serait à coup sûr infiniment plus difficile, prendre connaissance de la réalité des faits, de tous les liens que l'État impose aux citoyens, de tous les liens que ceux-ci s'imposent à eux-mêmes, avec la sanction de l'État, contre les règles pures de la théorie, et de toutes les conséquences qui en résultent. Le législateur devrait alors comparer l'un avec l'autre, ces deux tableaux, l'un des principes, l'autre des faits. Et pour transporter dans la réalité un précepte de la théorie, il devrait choisir l'instant où, suivant la comparaison, il se trouverait que, même après cette translation, le principe resterait le même, et de plus produirait les effets que le premier tableau présente. Ou bien, si ces conditions ne pouvaient être remplies, ce moment serait celui où l'on pourrait prévoir que ce défaut se corrigerait aussitôt que la réalité se rapprocherait davantage de la théorie. Car c'est ce but suprême, ce rapprochement complet, qui doit inlassablement attirer les regards du législateur. Cette proposition, pour ainsi dire figurée, peut paraître étrange, et peut-être plus que cela encore. On pourra dire que ces tableaux ne peuvent pas même demeurer fidèles, et qu'il est impossible de les comparer avec exactitude. Toutes ces objections sont fondées, mais elles perdent beaucoup de leur force quand on songe que la théorie réclame toujours la liberté, tandis que les faits, en tant qu'ils s'en écartent, présentent toujours la contrainte. Si l'on ne remplace pas toujours la contrainte par la liberté, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, et cette impossibilité, d'après la nature même des choses, ne peut avoir qu'une des deux raisons suivantes. Un degré où l'homme, où les faits ne sont pas encore mûrs pour la liberté. Et par suite ce qui peut provenir tout à la fois, et de l'homme et de la situation. La liberté détruirait les éléments, sans lesquels on ne peut imaginer aucune liberté, ni même l'existence. Deux degrés, ou bien, ce qui est une conséquence uniquement de la première cause, la liberté ne produirait pas les effets salutaires, qui l'accompagnent toujours quand elle n'est pas artificielle. Cependant, on ne peut juger les deux états sociaux qu'en se les représentant l'un et l'autre, la situation actuelle et la situation réformée, dans toute leur étendue, et qu'en comparant soigneusement entre elles leurs formes et leurs conséquences. La difficulté s'amoindrit encore davantage quand on considère que l'État lui-même n'a jamais le pouvoir ou d'opérer une réforme avant qu'il se produise chez les citoyens des signes de réclamation ou d'écarter des liens avant que leurs vices deviennent frappants. Que, par suite, l'État n'a en général qu'à remplir le rôle de spectateur et, si l'occasion se présente, de détruire une disposition restrictive de la liberté, il n'a qu'à en apprécier la possibilité ou l'impossibilité, enfin, il n'a qu'à se laisser guider par la nécessité. En terminant, je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'il n'a été question ici que du cas où, en général, une réforme est possible à l'état non seulement du point de vue matériel, mais encore moral, où par suite, les principes du droit ne s'y opposent point. Seulement, dans ce dernier cas, il faut ne pas oublier que le droit, naturel et universel, est l'unique base de tout droit positif. Qu'en conséquence, il faut toujours remonter au premier. Pour citer un axiome juridique, qui est comme la source de tous les autres, personne ne peut jamais, en aucune manière, avoir la faculté de disposer des forces ou du bien d'un autre homme, sans ou contre sa volonté. Cela dit, j'exposais le principe suivant. L'État doit, en vue des limites de son action, rapprocher la situation réelle des choses de la juste et vraie théorie, autant que la possibilité le lui permet et que des motifs de vraie nécessité ne l'en empêchent pas. La possibilité existe quand les hommes sont suffisamment prédisposés à la liberté. Cette liberté, qui, comme l'enseigne la théorie, peut toujours produire les effets salutaires, qui ne manquent jamais d'en découler, quand aucun obstacle ne vient les arrêter. Pour qu'il y ait, au contraire, une nécessité à ce que l'État s'abstienne de travailler à atteindre ce but, il faudrait que la liberté accordée détruise les résultats dont l'absence non seulement étoufferait tout progrès à venir, mais compromettrait l'existence même de la société. Pour apprécier la possibilité ou la nécessité, on doit toujours comparer soigneusement la situation actuelle et la situation modifiée, ainsi que leurs conséquences respectives. Cette règle fondamentale découle entièrement de l'application, sur ce cas précis du principe posé plus haut à propos de toutes les réformes. En effet, aussi bien quand il manque encore quelque chose pour que la nation soit prête à la liberté, que quand les résultats nécessaires dont on a parlé en souffriraient, la réalité empêche les règles de la théorie pure de produire les conséquences qu'elles produiraient toujours si aucun élément étranger ne venait s'y mêler. Je n'ajoute donc rien pour développer davantage le principe posé. À la vérité, je pourrais classer les situations possibles que présentent les faits et démontrer comment la théorie s'y applique. Or, ce faisant, j'irai contre mes propres principes. Car j'ai dit, en effet, qu'une pareille application exige l'étude de l'ensemble et de chacune des parties qui le composent dans leur contexte le plus exact. Or, on ne peut présenter un tel ensemble au moyen de simples hypothèses. Si je rattachais cette règle sur la conduite pratique de l'État, les lois que la théorie ci-dessus développée lui imposerait, il en résulte qu'il ne devrait jamais permettre qu'à la nécessité de déterminer la sphère de son activité. En effet, la théorie lui permet seulement de prendre soin de la sûreté, parce que c'est là le seul but que l'homme ne puisse pas atteindre à lui seul. Ce soin est donc le seul qui soit nécessaire. La règle de la conduite pratique lie l'État étroitement à la théorie, en tant que les circonstances actuelles ne l'obligent pas absolument de s'en écarter. C'est donc le principe de la nécessité auquel tendent, comme à leur but suprême, toutes les idées exprimées dans ce travail. En théorie pure, seul le caractère propre de l'homme à l'état naturel détermine les limites de cette nécessité. Dans l'application, la personnalité de l'homme, tel qu'il est en réalité, vient s'y ajouter. Ce principe de la nécessité devrait, suivant moi, servir de règle suprême à tout travail ayant l'homme pour objet. Car c'est le seul qui conduise à des résultats certains et infaillibles. Le critère de l'utilité qu'on pourrait lui opposer ne permet aucun jugement clair et sûr. Il exige des calculs de probabilité qui forcément ne peuvent point être exempts d'erreur, et qui, de plus, courent le risque d'être déjoués par les moindres circonstances imprévues. Au contraire, la nécessité s'impose à l'âme avec puissance, et ce qu'elle commande est toujours non seulement utile, mais indispensable. De plus, l'utilité, ayant un nombre infini de degrés divers, rend nécessaire une foule d'institutions nouvelles qui se succèdent, tandis que, tout au rebours, quand on s'en tient à ce que la nécessité exige, tout en laissant plus de jeu à la force proprement dite, on diminue le besoin que l'on peut en avoir. Enfin, la préoccupation de l'utile conduit surtout à des dispositions positives, la préoccupation du nécessaire surtout à des dispositions négatives. En effet, étant donné la force de l'énergie dont dispose l'homme, la nécessité ne conduit presque jamais qu'à la délivrance de tout lien qui le comprime. De toutes ces raisons, qu'une analyse plus détaillée pourrait accompagner de beaucoup d'autres îles. Résulte qu'il n'est point de principe aussi bien compatible que celui-ci avec le respect dû à la personnalité d'être conscient et actif, et avec le soin de la liberté qui naît de ce respect. Enfin, le seul moyen infaillible de donner aux lois la puissance et l'autorité est de les faire naître exclusivement de ce principe. On a proposé des moyens de plus d'une espèce pour arriver à ce but. Comme moyen le plus sûr, on a voulu persuader les citoyens de la qualité et de l'utilité des lois. Mais en admettant, dans un cas déterminé, cette qualité et cette utilité, on se convainc toujours avec peine de l'utilité d'une disposition. Des avis différents entraînent des partis divers, et le penchant lui-même prend le dessus sur la conviction, car l'homme qui saisit toujours aisément l'utilité qu'il reconnaît par lui-même, résiste à celle qu'on lui impose. Au contraire, chacun incline volontairement la tête sous le joug de la nécessité. Quand on se trouve engagé dans une situation compliquée, il est sans doute plus difficile à percevoir même le nécessaire. Mais précisément l'observation de ce principe rend toujours la situation plus simple et en rend toujours la vue plus facile. J'ai maintenant parcouru la carrière que je m'étais tracée au commencement de ce travail. Je me suis toujours senti animé du respect le plus profond pour la dignité intérieure de l'homme et pour la liberté qui seule est en harmonie avec cette dignité. Puissent mes idées et l'expression dont je les ai revêtues n'être pas indignes de ce sentiment. C'était Application au fait de la théorie ci-dessus développée. Chapitre 16, fin de l'ouvrage.